Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, toute la petite équipe des Good Gone est en plein air sous les étoiles. C'est fait, nous sommes à nouveau en public. Les théâtres et les cinémas sont réouverts, pas encore les salles de concert, et c'est bien dommage. On pense à tous les festivals annulés également, que l'on adore fréquenter en cette période. Mais on a trouvé la parade, et on vous en parle juste après. Au sommaire cette semaine, j'évoquerai avec Michel Bernini, comédien et directeur du théâtre Lulu sur la colline, le festival Les Nuits du Canal, aux puces de la Fessine. Guillaume fera résonner la musique une fois de plus avec son invité Austin. Gaël nous parlera d'une galerie d'art et agence immobilière, oui. Et nous terminerons avec nos Gédéons, les incontournables du moment. Sans plus attendre, on ouvre l'émission avec vous, Michel Bernini. Comme je le disais dans le sommaire de l'émission, vous êtes comédien, chanteur aussi, on en reparlera. Et directeur du théâtre Lulu sur la colline. Vous êtes à l'initiative du festival Les Nuits du Canal aux puces de la Fessine, où nous nous trouvons aujourd'hui, donc à Villeurbanne. Merci de nous recevoir ici, au cœur de ce festival imaginé et mis au point en plein confinement. Michel, juste quelques mots d'abord, avant de parler de ce très beau festival, de Lulu sur la colline. Parce que c'est quand même important et tous nos auditeurs ne connaissent peut-être pas Lulu sur la colline. Mais en fait, Lulu n'est pas sur la colline.
Lulu n'est plus sur la colline. Lulu l'a été, puisque c'était à la Croix-Rousse à une époque. C'est pour ça qu'on l'a appelé sur la colline. Mais après, je me voyais mal appeler Lulu derrière la voie de chemin de fer.
À Gerland.
Non. Donc du coup, on a gardé la colline, hein, tant qu'à faire. Voilà.
Donc vous êtes dans notre quartier.
Dans le 7e.
Ouais, absolument. Alors, Lulu sur la colline, c'est d'abord du théâtre d'entreprise, n'est-ce pas?
Enfin. Ça a été une façon de créer le lieu. Ouais. C'était en fait, comme on n'est pas subventionné pour un rond, donc l'idée c'est de faire ce qu'on sait faire pour mettre nos services au service d'entreprise en fait.
Ouais.
Service d'écriture, de monter des spectacles, des comédies musicales, voilà, pour que les entreprises puissent communiquer en interne ou en externe.
Et ça fait combien d'années que Lulu sur la colline
Ça fait beaucoup trop déjà. Ça fait... Ouh là, Lulu, ça existe depuis 2004.
Ouais.
2004, donc ça fait...
C'est une belle aventure.
Ouais, c'est une belle aventure. C'est... Alors avec, bien entendu, c'est un bateau qui a pris l'eau, un bateau qui a pris le vent. Voilà, c'est...
C'est pas simple, hein?
Non, rien n'est simple.
Ouais,
en même
temps,
c'est le propre de la vie, donc c'est ça qui est intéressant aussi.
En même temps, Michel, vous n'avez pas choisi la facilité, hein?
Eh ben si.
si,
parce que je trouve que c'est la facilité, c'est un métier, moi, la chance que j'ai, le seul luxe que j'ai, c'est de faire un métier qui me plaît, c'est ma passion. Donc après, toutes les galères qui puissent arriver, ben...
Ouais, ça va avec,
bah
et
ouais,
finalement ça se gère. Quoi.
Bah ouais,
ouais. Et même ce confinement, finalement, a été... propice à une réflexion et à la naissance de ce beau festival où on se trouve aujourd'hui.
Oui, j'ai eu beaucoup de... Enfin, déjà, quand on nous a dit le 14 mars, voilà, c'est fini, vous arrêtez de gagner de l'argent, parce que nous, on est dans nos ministères et on va continuer à toucher nos salaires, mais on réfléchit, hein, déjà. On va réfléchir. Déjà, on n'avait pas pensé aux masques, du coup, on les avait virés. On ne s'est pas aperçu que le laboratoire qu'on avait... commencer à aider et à faire partir des pangolins de partout et à balancer du virus dans le monde entier. Donc du coup, bah, vous allez arrêter de travailler. Voilà. Donc ok, on va arrêter de travailler. Le problème, c'est que comme on n'a pas de subvention, bah, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger. Bon, j'avais du bol, je m'étais un peu débrouillé, j'avais des enfants un peu grands, donc ils ont confiné à la maison et puis grâce à leur salaire, on a pu subvenir à nos besoins.
Alors donc. Justement, c'est par rapport à ça, par rapport aux enfants notamment, parlons-en. Et oui, on vous a vu sur Facebook, vous avez diffusé une chanson par jour et je vous ai même entendu chanter du Céline Dion.
ouais, vraiment, c'est extraordinaire, bien chanté, le Canadien.
Et en plus, ouais, voilà. Il fait bien l'accent.
Ça permet d'avoir tout de suite un QI beaucoup plus important. quand on a l'accent canadien, on a tout de suite l'air abruti. C'est ça qui est intéressant. Non, parce que tout le monde pense que Céline Dion est con, mais non, en fait, elle est juste canadienne. Voilà, ça fait pareil avec les Stéphanois. Enfin bon, ça c'est un truc.
Et donc avec vos enfants ont autant de talent que vous.
Alors, si tant est qu'on ait du talent, bon, en tous les cas, on se marre, on a les mêmes délires. Ouais. C'est ça qui est cool. On s'est bien marré pendant le confinement parce qu'en fait, on n'avait rien d'autre à faire à la maison.
Ouais.
Bon, on a profité, nous, dans notre famille, on a profité pour. On a perdu à peu près une vingtaine de kilos chacun, parce qu'on était gros au départ. Donc on a fait du sport, on a mangé correctement, et puis on a chanté des chansons. Et puis de temps en temps, le soir, il y avait des gens qui venaient me demander mon avis sur ce qu'ils faisaient à la radio, et c'était assez sympa. Il y avait mon maître.
C'est... Derrière la console ce soir. On est là dans le cadre des Nuits du Canal. Alors, Michel, comment avez-vous réussi à monter un festival qui a commencé le 11 juin et qui se terminera le 12 septembre en une période record en ayant obtenu l'aval de la région Rhône-Alpes? Parce que moi, il y a des trucs qu'il faut qu'on m'explique.
Voilà, vous expliquez. Donc, l'idée est venue de Stéphane Blanchet, le directeur des puces, qui voulait créer une autre ambiance dans son lieu. Donc, il a un chapiteau magnifique. Ça, c'était pour les jours où il pleut. Puis aussi, on a décidé de faire des spectacles en plein air, comme on va faire aujourd'hui. Parce que moi, je rêve depuis des années de faire des spectacles en plein air, parce qu'on se fait toujours au mois de juillet à Lyon. On ne peut pas dire que les gens viennent beaucoup au théâtre.
Oui, c'est vrai.
Même si les théâtres sont climatisés, ils ne veulent pas s'enfermer. Donc moi, je rêvais de faire ça depuis pas mal de temps. Si on veut jouer l'été, généralement, on va dans des festivals où on se fait, par exemple, des pecées à Avignon.
On peut aller se faire des pecées. Ni plus ni moins.
Oui, parce que...
Très clairement.
En fait, on parle de festival, mais j'aurais plutôt tendance à parler de salon du théâtre.
Hein. C'est vrai.
Voilà, c'est le grand expo du théâtre à Avignon. Et donc, les gens qui se gaffent, ce sont ceux qui louent des salles, ceux
Bien
qui louent
sûr.
Des appartements. Enfin, tout. Voilà. Et les compagnies viennent. Mourir,
à Avignon, ouais, c'est vrai.
Généralement. Donc, moi, j'avais envie de faire un truc en plein air parce que je suis quelqu'un du Sud, Bernini, vous voyez. mais pas que l'Italie aussi, l'Algérie, machin, tout ça. Je suis un peu un résultat méditerranéen et j'aime bien la chaleur. Moi, là, aujourd'hui, il fait 30, je suis super bien.
On est super bien.
Moi, voilà, je revis. Et donc, j'ai envie de ça depuis des années et donc, ça m'a permis de rencontrer Stéphane parce que j'avais mon associé, Laurence, qui était en fait sa cousine. C'est plus simple, c'est toujours pareil. Quand on connaît les bonnes personnes, on arrive à
vous
faire des choses.
Vous parlez de Florence Vernet-Caron?
Non, je ne vois pas qui c'est. je ne vois pas. C'est Laurence Bonnet-Blanchet. Donc, vous savez, les Blanchet, en fait, c'est une grande famille lyonnaise.
C'est vrai.
La pharmacie
Stéphane.
Blanchet, machin, tout ça.
Absolument. On aura Stéphane la semaine prochaine sur notre plateau.
Et donc, voilà. Moi, j'ai eu du bol de les rencontrer. On a fait venir un troisième larron qui s'occupe de la technique, Frédéric Cilia, qui est le patron de Quorum Productions, que je connais depuis 35 ans. On se connaît, on bosse ensemble depuis 35 ans. C'est un mec top, précis, pointu. Il a une boîte à Lyon. Il a fait aussi des shows, des shows à Dubaï.
Donc vous aviez les ressources.
Oui, voilà,
vous aviez le lieu. Vous aviez les ressources. Vous aviez toutes les compétences possibles requises. Après, il fallait coucher ça sur le papier.
Ouais. Après, il a fallu le pondre, le dossier. Mais bon, après, on avait... Je voulais pas faire ça que moi tout seul. Je vois pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'aider les potes. Donc, il y a Jacques Chambon qui est venu la semaine dernière. On a fait des Lululand. Ce sont des grandes comédies musicales où on fait bosser des musiciens et des comédiens chanteurs lyonnais. Il y a Alain Chapuis et Marie Blanche qui viennent la semaine prochaine dans Toi et moi divorce, Faites leur divorce. Plein de copains de Kaamelott. Parce que moi, j'ai eu la chance de jouer 4 minutes dans Kaamelott.
mais ça reste des amis à vie.
Voilà.
Donc, la famille Astier.
Moi, les gens de Kaamelott, je les connaissais avant, si vous voulez. Ouais. Donc, j'avais l'impression, quand j'ai vu les premiers épisodes de Kaamelott, que c'était mes potes qui s'étaient déguisés en Moyen-Âge et qui faisaient une blague.
C'était un peu ça, hein, quand même.
Oui,
hein. Alexandre, c'était quand même un peu ça au départ.
Oui, tout à fait. Mais moi, c'était mes potes, donc j'y croyais pas. Parce que Merlin, il joue au volet avec ma femme. Donc, je l'ai vu plus souvent en short et basket devant un filet qu'en train de faire de jeter des mauvais sorts pourris. Donc voilà,
vous parlez de Jacques Chambon qui interprète Merlin, bien sûr, dans la célèbre série.
Il a fait d'ailleurs un carton. Il va jouer bientôt à l'Odéon la semaine prochaine.
Alors revenons aux puces et revenons aux Nuits du canal, Michel. Donc, comment avez-vous réussi à convaincre Florence Vernet-Caron?
Alors là,
elle vous a reçu dans son studio, dans son appartement.
Je ne sais pas si elle nous a reçu, je ne sais pas si elle a reçu. En tous les cas, c'est Stéphane Blanchet, ça. Ça, c'est lui, le monsieur, enfin pas subvention, mais le monsieur réseau,
qui a réussi,
politique, tout ça, c'est son truc. Parce que, c'est lui qui a...
En tout cas, pour cette première édition, il y a du lourd, il y a de quoi faire, et on va être bien ici, au Puce.
Ouais,
j'ai bien l'impression, Michel.
Ouais, c'est sympa. On va choper, on a Michael Jones qui va venir.
Ouais.
On a qui vient en vedette. On a Chicandier. Alors bon, Chicandier, il y a les gens qui suivent un peu les youtubeurs sur le net qui le connaissent. Mais quand j'ai dit à mes enfants, il y a Chicandier,
c'est tombé à plat.
Non, si, si.
Non, si.
Ah, les gosses, oui, parce que j'ai des vieux. Moi, ils ont 25, 21, 19 ans. Donc, c'est des essais, ils sont barrés. Ils commencent à comprendre qu'il faut boire de l'alcool pour s'amuser. Enfin, oui, les trucs.
D'accord.
On est bête à cet âge-là. Et donc, Chicandier, c'est typiquement ça, quoi. Et c'est super drôle. Un mec très bien, d'ailleurs, un Stéphanois, comme quoi ça peut arriver.
Il y aura des soirées Retour vers le futur, par exemple. Je suis pas malade, bien sûr, de Jacques Chambon, on en a parlé. Enfin bref, Retour vers le futur, ça a l'air vraiment pas mal. Hein.
Alors ça va être bien, parce qu'en fait, c'est mon pote du Théâtre Edgar, Luc Hamet.
Luc Hamet, ouais.
Ouais, qui est la voix française de Michael J. Fox.
C'est ça.
Donc la voix de Marty. Et
oui,
il va venir, il y aura la DeLorean, donc la voiture.
Oh, super.
Sera là. On va pouvoir prendre des photos avec la DeLorean et tout ça. Et puis surtout, on va faire une journée spéciale doublage, parce qu'on a celui qui va jouer, Laurent Pasquier, qui est avec nous, là, c'est la voix française de Mickey aussi.
Donc le 4 juillet, on va faire un revival spécial doublage.
Et à la fin, donc on fait un Saturday Night Live, c'est-à-dire une émission avec Luc Hamet en invité principal, avec des chansons qui lui plaisent, des sketchs, des pièges, comme un Saturday Night Live, sauf que nous on appelle ça Samedi la nuit en direct du canal. Et à la fin de tout ça, il y a diffusion du film Retour vers le futur.
Ah, très très bien, ouais. La nuit sous les étoiles, génial. Merci beaucoup Michel Bernini d'être venu nous parler de cette première édition. Est-ce qu'il y en aura une deuxième?
Écoutez,
est-ce que vous prévoyez déjà, vous vous projetez pour l'année prochaine?
Oui, non seulement on espère faire...
C'est quand même chouette.
On espère faire ça aussi, donc les Nuits du Canal, mais on a un petit projet de festival aussi, juste avant Avignon, mais un festival, circuit court avec des valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on va, l'idée c'est, on va essayer de trouver des sponsors, etc. Ça, on va se bagarrer pour ça, mais surtout pour que les compagnies ne viennent pas perdre leur vie dans un festival, on va faire en sorte d'être des coproducteurs aussi. C'est-à-dire qu'on va, mouiller la chemise avec eux.
C'est super.
On va leur permettre d'avoir des producteurs qui vont venir, des acheteurs. Les acheteurs vont être hébergés correctement. Les compagnies seront hébergées correctement. On va faire un truc, tout ce qu'on n'aime pas à Avignon, on va pas l'avoir ici.
Ah, voilà. C'est formidable, vraiment. Alors, si ça pouvait se réaliser, Michel. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses sur cette aventure-là, parce que c'est vraiment indispensable, je crois, parce que cette industrie d'Avignon, je pense, a vécu, comme vous l'avez
malheureusement,
dit.
Malheureusement. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. C'est,
de rien, c'est un vrai plaisir. Les Nuits du Canal, il y a un site internet très bien fait où on peut réserver sa place. Alors, ce que j'ai oublié de dire, et c'est très important, ici, il y a une buvette et il y a aussi un barbecue signé Sibylla.
C'est ça.
Voilà, il faut aimer.
C'est offert, le barbecue.
Tout ça, voilà.
Donc,
ça fait partie avec l'entrée. Voilà.
35 balles et on peut manger. Et alors, on peut manger effectivement des grillades. Donc, les véganes, venez avec votre casse-croûte.
Merci beaucoup, Michel. Bonne soirée.
Merci.
Et puis, à très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
On se retrouve sur le plateau avec toi, Guillaume. Tu es venu accompagné d'Austin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir jouer pour nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir du live ici en plein air. Enfin bref, on prend notre pied, n'est-ce pas Guillaume?
Tout à fait. Et puis là, il fait un temps quand même de folie.
Extraordinaire, voilà. On est ici au Puce du Canal, je tiens à le préciser. On en parlait tout à l'heure, à l'instant, avec Michel Bernini. Je te laisse avec ton invité, Guillaume.
Donc, comme on le disait en off à l'instant, ça fait un petit moment que je te suis. Et puis, en fait, c'est presque notre première rencontre. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes, peut-être au public lyonnais. Bon, même si, quand même, le public lyonnais te connaît. Alors, quel est ton parcours et
Bien. Bah déjà content de te retrouver depuis le temps. Donc Austin, nom de scène depuis à peu près 10 ans quand même. Donc effectivement, j'ai commencé sur la scène lyonnaise, un peu comme tout le monde, hein, faire les craspec, à faire ce genre de scène. Puis, ce qui m'a fait sortir de Lyon, c'est une rencontre avec une chanteuse qui se fait appeler Robert. Mes potes disent que c'est la Mylène Farmer du pauvre. Ils sont pas tort. C'est un live qui traînait en boucle sur M6 et j'ai trouvé ça assez barré, assez baroque. Et par le plus grand des hasards, on s'était rencontrés. Elle m'a dit viens, elle sort sur mon album. Donc banco, on a enregistré un duo ensemble qui est une belle casserole maintenant. Faut pas chercher ça. Et de là, ça s'est enchaîné. J'ai fait un premier EP avec Yann Cortella.
Oui.
Et ensuite, j'ai pu défendre ce projet sur des belles scènes, La Cigale, Les Trois Baudets, Le Réservoir. Ça en est suivi un temps.
Des scènes parisiennes, donc.
Des scènes parisiennes, ouais, effectivement. Je n'avais pas joué beaucoup à Lyon, d'ailleurs. Mm-hmm. On me proposait que des plans pourris à Lyon. À Paris. Mais ça n'enlève rien à Lyon, bien entendu. Et de là, après quelques années un peu plus silencieuses, on arrive justement au deuxième EP que je viens défendre en ce moment.
D'accord, bah justement, parlons de ce deuxième EP. Où est-ce que tu l'as enregistré, avec qui? Parlons un petit peu de justement des textes de cet EP, parce que tu parlais de baroque. Bon, évidemment, les références, c'est toujours un peu maladroit de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas? Mais bon, il y a un petit peu de bachung malgré tout dans des textes qui sont un petit peu, je dirais pas ésotériques, mais quelquefois, voilà, c'est pas forcément des paroles simples à comprendre du premier abord. Mais une fois qu'on les décortique, il y a des choses qui sont très poétiques. Décortique, poétique, c'est beau.
Il paraît que c'était toujours mon problème de se faire des textes un peu trop saccadés. Mmh. C'est pour ça que j'ai voulu m'entourer d'auteurs pour ce nouveau projet. Il y a eu Kent, je suppose qu'on en parlera longuement après. Et j'ai l'honneur aussi d'accueillir un ami sur cette EP, qui est Julien Tixier, qui s'est découvert un talent d'auteur. Enfin, je l'entendais faire quelques punchlines comme ça en soirée en off pour parler des... Donc il est gérant d'un bar à Lyon, pour parler d'une de ses serveuses, il disait qu'elle avait un cul d'artichaut. J'ai trouvé ça très 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 tixier et très beau. Et finalement, quand il m'a dit qu'il voulait commencer à écrire, on me dit mais banco, ça va être énorme. Et donc ça a donné Bruit de Mandarine. Et donc je suis en train de perdre un petit peu mon fil conducteur sur le...
Non, mais parlons de Bruit de Mandarine, c'est vraiment un titre, je pense que c'est... Enfin après, évidemment, sur un EP, il y a peu de titres, mais vraiment c'est un titre marquant du disque. Parce que justement, il est ésotérique, je ne sais pas, mais il y a plein d'images un petit peu incongrues, on va dire, sur ce titre.
Oui, c'est ça, on voulait faire un truc un peu plus déconne. C'est les pôles qui me correspondaient un peu moins. L'idée était de me sortir aussi de mes pôles de confort. Ça a été le cas avec les deux collaborations, donc avec Kent et avec Julien pour Bruit de Mandarine. Et c'est aussi les premiers titres que j'ai maquettés seul à la maison. Et je cherchais une pulse un peu... un peu disco, un peu déconne, mais avec des accords assez sombres, un peu type, un peu l'esprit de voyage finalement, mais en moderne. J'ai pas pompé la grille, mais je cherche un petit peu cet esprit. Et on est parti là-dessus. Alors Julien m'a présenté à peu près 4 feuilles à 4 de punchline emboîtable de différentes façons. Il a fallu trier. C'est plutôt agréable d'avoir trop de matière plutôt que le contraire. Hein. Et donc on s'est retrouvé quelques fois autour d'une table au Monkey, au bar lyonnais pour débriefer des appels à minuit, 2h du matin pour dire ah, putain j'ai plutôt celle-là, bon voilà, comme finalement des histoires d'albums de légende mais à notre échelle de petits lyonnais. Enfin,
alors justement peut-être parle-nous un petit peu de tes influences, parce que je disais bachung, mais encore une fois c'est un petit peu réducteur, mais toi qu'est-ce qui te marque aujourd'hui dans la musique d'aujourd'hui ou peut-être d'hier?
Alors, bachung évidemment pour le texte surréalisme, j'allais dire du coup l'influence est plus Bergman plutôt que Bachung. Oui, voilà. Dans ce type d'école-là, j'étais beaucoup plus entre guillemets gainsbourgien parce que ça correspondait au goût de mon père, aux souvenirs que j'ai avec mon père. Donc j'avais l'oreille plutôt aiguisée à ces atmosphères, même si je ne les comprenais pas à ces âges-là, ni les atmosphères ni les textes. après, c'est passé par beaucoup de choses. Le rock anglais, j'étais un grand fan de Blur dans les années lycée. C'est resté parce qu'ils savent se renouveler. Les derniers albums qui sont pas tubesques du tout font pour moi des mines d'or aussi d'arrangement. Donc j'essaie de m'en inspirer et j'essaie toujours d'écouter des choses qui sortent de mes pôles de confort, comme du child pop, Toro y Moi, des trucs un peu comme ça, ou plus vieux, Rudy Gilberto, ce sont des trucs qui me parlent beaucoup aussi. Ça va un peu dans tous les sens.
D'accord. Peut-être on peut revenir sur l'enregistrement de l'album. Donc tu es allé enregistrer en Auvergne, hein, du côté de Cournon sur Auvergne, du côté de Clermont, avec Denis Clavezol. Tu peux nous en parler, comment est venue cette idée et puis qu'est-ce qui t'a apporté en fait sur cette EP?
Eh bien, moi, je me suis retrouvé du coup avec 5 titres maquettés maison, à me dire bon, bah maintenant c'est joli, mais qu'est-ce que j'en fais? J'étais content du résultat. Et ben, des oreilles bienveillantes. Ben, un autre Guillaume, pour le nommer, que je remercie s'il m'écoute, m'a soufflé le nom de Denis Clavezel en disant que ça aurait pu matcher. Donc, effectivement, je vais penser à Adil Fonbuena aussi. Ça aurait pu. Et Denis, ben. J'ai tenté un peu au hasard simplement d'envoyer un email en présentant mon projet. Je pensais, ça me paraissait beaucoup plus inaccessible que ça en fait de contacter. Donc je ne connaissais pas son nom, mais évidemment je connaissais les albums qu'il avait réalisés, notamment pas mal de Mural, le dernier Bachung, effectivement. Daniel Darc.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Donc effectivement, quand j'ai lu son CV, ah oui, ok, si je tombe là, ça peut le faire. Il m'a dit qu'il marchait au coup de cœur, donc ça l'a fait. Il m'a invité à d'abord nous rencontrer. Je suis arrivé dans une grande maison à Cournon qui me fait penser un petit peu à un manoir. Il me fait bah, viens, je te fais visiter. Donc je rentre dans une grande pièce avec du matos, mais de cinglé. Et je dis ah ouais, quand même.
Il me fait, non, il est passionné de clavier vintage. Hein.
Oui, ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Donc moi j'ai halluciné en découvrant, en passant la porte. Il me fait non, ça c'est la remise. Le studio c'est derrière.
Okay, d'ailleurs, petite annonce, je crois qu'il vend un piano Buffenderfer là en ce moment parce qu'il veut faire de la place pour acheter encore du vintage, je crois.
Exact, j'ai vu ça traîner. Et donc, je suis donc le contact est bien passé. J'y suis retourné 2 mois plus tard. Il m'a invité à loger chez lui, ce qui est très sympa. On a passé une excellente semaine, tout aussi excellente humainement, à débriefer avec mes petits bouts de maquette, voir ce qu'on gardait, ce qu'on reforgeait, etc.
Et alors, du point de vue du son, qu'est-ce qu'il a apporté justement à tes chansons?
Ah bah beaucoup plus de délicatesse, ouais. Déjà, c'est surtout ça, la richesse, beaucoup d'harmonie, parce que mes travaux étaient très 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 bruts, et puis bah, son œil a visé, évidemment.
Et si tu devais choisir, je ne sais pas, une artiste pour faire un duo, je dis une artiste, c'est bizarre, dans ma tête ça peut très bien être un artiste, mais je ne sais pas, est-ce que tu aurais des idées de,
j'en
de
ai,
duo?
J'en ai une qui me vient absolument tout de suite en tête, c'est Rive Cohen. Je suis tombé absolument amoureux de son premier album, il y avait vraiment un mélange de Brigitte Fontaine et de Catherine Ringer pour moi dans cet artiste.
D'accord.
Donc elle s'égare un petit peu, j'ai entendu des choses que j'aimais un peu moins en ce moment. Mais non, Rive Cohen, elle a des cojones.
D'accord. Donc tout ça, c'est toi qui autoproduis finalement tout ça. On est bien d'accord. Hein, tu n'as pas de structure derrière toi qui te soutient. Est-ce que tu veux rester dans cette idée-là ou au contraire, tu aspires un petit peu à finalement sortir de ça avec des ambitions un peu plus importantes pour se faire connaître un peu nationalement, voire internationalement, mais disons déjà... Nationalement.
En français, ça limite déjà un petit peu sur le... Mais non, évidemment, les ambitions, sans prétention, doivent toujours être au maximum. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est d'enregistrer avec les meilleurs et de faire les meilleures scènes. Ouais. Sinon, j'aurais pas tenté le coup. Donc, espérons que ça soit toujours possible. J'essaie de me donner les moyens pour. Et on verra. Je marche au fil des rencontres.
D'accord, et ben on va t'écouter tout de suite hein, dans un titre que tu vas nous jouer à l'instant en acoustique qui sera...
Tes délits font des ordres.
Voilà, parfait. Eh bien, on t'écoute.
Sans 20 battements à l'intérieur, la chilienne canadou. Pose mes lunettes noires sur le cœur. Faut dire que j'y vois le mal partout. Tous ces désordres, tes délits font des ordres. faut que je me taille. Pointe mon bic chez les Maasai. Je fais la mine pour une bonne conduite. Dans mon blue jean avec un vieux zip. Usé jusqu'au bout. Depuis que je travaille mon bittersweet. Dans le vestibule y'a des coups de pompe en friche. Et des living jaloux. Parfois je perds le fil conducteur d'un marteau pick-up fou. Je cale à mitaille le prompteur. Allonge un numéro rendez-vous. Tous ces désordres, tes délits font des ordres. J'ai séché nos fiançailles. Costume cintré plus à ma taille. Je me fais la mine pour une bonne conduite. Sur mon beau jean avec un vieux zip. Usé jusqu'au bout. Depuis que je travaille mon bittersweet. Dans le vestibule y'a des coups de pompe en friche. Et des livings jaloux. Je fais la mine pour une bonne conduite. Dans mon blue jean avec un vieux zip. Usé jusqu'au bout. Depuis que je travaille mon bittersweet. Dans le vestibule y'a des coups de pompe en friche. Et des living jaloux.
Gaël, cette semaine, tu évoques le trio gagnant, l'agence immobilière, la galerie d'art et un célèbre artiste de street art américain des années 80, je crois.
Exactement. Donc, quel est le point commun entre l'art et l'immobilier ?
Je ne sais pas. Il y a
Smart
des belles
immobilier. Smart Immobilier, c'est le ça. Nom de l'agence. Une agence immobilière créée en 2018 à Lyon 5e par Axel Matan. Accompagné de Romain Perrault, donc une agence doublée d'une galerie d'art. Et la programmation artistique est très active. Depuis l'ouverture de la galerie, en mars 2019, environ 10 expositions ont été programmées sur une durée de 6 semaines à chaque fois. Street art, disques vinyle, BD, photos de jazz, culture populaire, art moderne, les thématiques ne manquent pas. Les œuvres exposées revêtent une caractéristique tout à fait original, à savoir celle d'appartenir à une collection privée, celle de Romain Perrault. Ce prosélyte de l'art et collectionneur depuis plus de 10 ans est un grand passionné. Musicophile, BD-phile, street art-phile, le suffixe phile n'a de cesse de convenir à cet amateur plus qu'éclairé et passionné. Romain Perrault achète de l'art depuis des années aux galeries d'art, aux enchères, directement auprès de certains artistes et comme de nombreux collectionneurs, il a cette logique de revente d'œuvres pour en acheter d'autres. Il est donc dépositaire par procuration, ce qui lui permet de toujours offrir une envergure plus large à sa collection. Cette chronique nous permet aussi d'aborder un acteur de la scène artistique dont nous parlons rarement, à savoir le collectionneur. Collectionner, selon Paul Valéry, est une forme supérieure de l'instinct de conservation. Mais nombreux sont les collectionneurs qui gardent leurs trésors à l'abri du grand public. Or là, Romain Perrault montre ses acquisitions. Faisant partie de ces collectionneurs passeurs, c'est-à-dire qu'en tant que mécène pédagogue, il peut vous raconter l'histoire de chaque pièce. Il est également mécène soutien, car accompagne certains artistes. Exemple, avec un artiste brésilien, Raphaël Slix, qu'il exposera en septembre prochain. Romain Perrault met également à disposition certaines œuvres de sa collection, cas d'un prochain prêt à venir en 2021 pour une exposition consacrée à la breakdance à la Philharmonie de Paris. Revenons à Lyon. La galerie Smart Immobilier est un espace ouvert à tous, dans un cadre très accueillant, comme si vous étiez à la maison. Loin des schémas de galeries estampillés White Cube, hein, ce fameux dispositif scénique du cube blanc, les œuvres sont ici exposées à côté d'un canapé, un réfrigérateur. L'atmosphère est chaleureuse et l'accrochage des œuvres pourrait être le même chez vous. La dernière exposition était intitulée The French Connection et mettait à l'honneur des artistes français issus du graffiti, comme, pour en citer quelques-uns, Speedy Graffito, Blake Lera, Brusque, Zeus, Marie Rouffet et André Sairava, le fameux créateur hein, du personnage Monsieur A. La prochaine exposition, du 4 juillet au 29 août, sera monographique sur l'emblématique et engagée Kessaring, que vous avez cité en introduction. Certains Lyonnais se rappellent d'ailleurs peut-être de la vaste rétrospective que le MAC, le Musée d'Art Contemporain, lui avait consacrée en 2008, année où l'artiste aurait dû avoir 50 ans. Smart Immobilier, quant à elle, rend hommage aux 30 ans de la disparition de Kessaring, décédé en 1990 à l'âge de 31 ans, proche d'Andy Warhol et comète de l'art urbain du New York des années 80 où il a aussi côtoyé Jean-Michel Basquiat. Il expose pour la première fois en 1982 dans la galerie du célèbre Tony Chafrasi, quasiment dès l'ouverture de la galerie. L'exposition à Smart Immobilier proposera des photos de l'artiste, des sérigraphies, des collectors hein, comme la Maxi Swatch, des magnettes, des impressions de pochettes de disques vinyles, des affiches lithographiques d'exposition, des affiches également de festivals. Le point d'orgue de cette exposition sera une estampe rehaussée par Kessaring lors du vernissage de sa dernière exposition, celle à la galerie 1900-2000 à Paris, le 15 janvier 1990. L'artiste disparaissait un mois plus tard. Dans les travaux exposés, vous retrouverez toutes les caractéristiques de Kessaring, à savoir le tracé à main levée, la ligne claire au trait constant et la coloration pleine et sans ombre. Cet artiste majeur a énormément popularisé le graffiti en lui apportant une dimension de stéréotype publicitaire. Qui ne connaît pas ses chiens aboyeurs, ses bébés rampants à quatre pattes, le fameux bébé radiant, ses serpents, ses pyramides, ses télévisions et ses soucoupes volantes. Tous ces symboles sont simples et explicites, mais Kessaring soulignait toutefois « Je donne des figures simples, mais en même temps complexes, comme des idéogrammes ». Kessaring aimait la dimension publique de l'art, preuve avec ses subway drawings qu'il dessinait à la craie blanche sur les panneaux publicitaires recouverts de papier noir hein, dans les métros de New York. Dimension publique de l'art également célébrée dans le choix de supports accessibles à tous, métro, mur de la ville, réverbère, jusqu'aux produits dérivés qu'il commercialisait lui-même. Vous retrouverez cette dimension d'art accessible à tous dans l'espace de Smart Immobilier, car en dévoilant sa collection, Romain Perrault, hein, en faisant cette démarche intime, est également animé d'une volonté de transmission, de pédagogie et de partage. Donc, une exposition à voir du 4 juillet jusqu'au 29 août, Smart Immobilier, 5 avenues de Chiron.
Merci Gaëlle, tu dis très bien Smart Immobilier, tu devrais faire de la publicité peut-être.
Ceci est le rétroviseur.
Très bien, un petit jingle Gérald. On va terminer avec nos Gédéons de la semaine. Alors, Guillaume, tu es venu accompagné d'une bande dessinée.
Oui, alors j'en avais prévu une autre, mais on l'a volée, donc voilà. Mais
je trouve que j'en avais plusieurs. Vous avez eu la même idée avec
Gaëlle,
je crois.
Oui, on a eu la même idée, mais en même temps, je suis très content de parler de la dernière production de Fab Caro. Fab Caro, dont on avait parlé justement dans une précédente émission, puisque son Zai avait été mis en scène au Théâtre des Célestins. Donc là, c'est le tome 2 de son Open Bar. Alors évidemment, c'est toujours aussi hilarant, Fab Caro. Je vous lis juste la quatrième de couverture, parce que comme ça, ça donne un petit peu quand même l'idée de ce que contient l'ouvrage. Eddie Mitchell et la raclette sont-ils compatibles avec une vie intime amoureuse? Peut-on vraiment assumer d'avoir un père manager conseil? Ça revient souvent, le manager conseil dans les délires de Fab Caro. comment s'assurer que les parents resteront bien jusqu'à la fin de la kermesse de l'école? Ça aussi, c'est une vraie problématique, surtout en ce moment, même s'il y a le Covid. Qui gagnera la compétition d'enfilage de housses de couettes? Et ça, on n'y pense pas assez. Donc voilà, c'est complètement délirant, c'est toujours ce dessin un peu particulier, voilà, un petit peu répétitif, mais qui fait tout le sel de Fab Caro. Et puis j'en profite, puisque je l'ai amené aussi, moi je conseille vivement aussi de relire ou de lire aux éditions Folio, puisque maintenant c'est en poche, son roman qui s'appelle Le Discours, parce que c'est vraiment hilarant. En tout cas, c'est, pour moi, ça a été une vraie, un vrai miroir tendu le long des chemins, comme dirait l'autre. Voilà, vraiment, Le Discours de Fab Caro, si vous voulez rigoler cet été, bon, c'est un petit peu pince sans rire, mais vraiment, voilà, c'est une histoire de famille, d'une idée de famille où c'est quelqu'un qui pète un peu les plombs et c'est vraiment incroyablement drôle. Voilà.
Ouais, c'est très bien écrit, Fab Caro.
De rire
très
aussi
bien.
L'été.
Ouais, c'est vrai. Gaëlle, alors, tu es venue, toi aussi, accompagnée d'une bande dessinée. Non ? Non, c'est le prochain. Ah, c'est d'accord. Donc, alors Gaëlle, ton Gédéon de cette semaine ?
Alors, mon Gédéon de cette semaine est une exposition intitulée « À travers » et qui met à l'honneur pour la quatrième fois, dans l'espace de la galerie Françoise Besson, les œuvres de Chantal Fonvieille, artiste qui travaille la cible. Les dernières œuvres de Chantal Fonvieille relevaient de créations à partir de cibles récupérées dans des stands de tir, cibles véritables donc, qu'elle trempait ensuite dans des bains de rouille, d'encre de Chine et de broue de noix. Pour la nouvelle exposition, ce sont cette fois des cibles de tir à l'arc qu'elle utilise comme support. L'exposition est intitulée « À travers », trois petits points, car l'artiste met au contact la flèche à travers la cible, l'eau à travers l'impact et la lumière à travers la trouée. Les textures des cibles ont un incroyable rendu. Les surfaces allant du lisse au rugueux, au râpeux, au granuleux, en plus des coulées traversant le matériau. Chaque œuvre est tout autant œuvre recto, du coup, hein, que œuvre verso. L'envie tactile est d'ailleurs puissante. Fort dispositif haptique, je confesse, j'ai touché. Chantal Fonvieille souligne que cette série raconte une histoire naturelle, imprévisible, qui la fascine. L'imprévisible joue même deux fois des accidents du hasard, via le retrait, hasard donc du tir qui troue, et via l'ajout, avec son procédé de création, avec la durée des bains de rouille, d'eau et l'action de l'encre de Chine. Tout ne relève toutefois pas du hasard. Chantal Fonvieille est très modeste hein, lorsqu'elle cite ses heureux accidents, car en plus de nous proposer une autre vision, soit une vision conceptuelle de l'impact balistique sous toutes ses formes, ce sont des années de savoir-faire et d'expertise technique qui sont mises ici à l'honneur. À travers, trois petits points, est une exposition sur la texture impactée en plus des impacts de tir. C'est donc à voir à la galerie Françoise Besson, 10 rue de Crimée dans le premier, jusqu'au 30 juillet. Ne pas oublier également de visiter l'autre espace intitulé La Petite Galerie, juste à côté, au 6 rue de Vauzelles.
Merci beaucoup Gaëlle. Moi je termine avec le festival, un autre festival. Je vous avais promis en fait une émission spéciale festival. Eh bien voilà le deuxième festival que je souhaitais évoquer dans cette émission. Le festival bien sûr Tout le monde dehors à Lyon, donc du 11 juillet au 30 août. C'est une édition quelque peu écourté cette année, puisque au lieu de débuter comme les années précédentes le 21 juin pour la fête de la musique, elle ne débute que le 11 juillet. Au programme, 90 événements gratuits et en plein air se déroulent sur les places, ou dans les parcs, les jardins des divers quartiers de Lyon. Initiatives sportives ou de bien-être, jeux, concerts classiques ou de musique actuelle, démonstrations de danse, théâtre, cirque, séances de cinéma pour tous les publics. C'est extrêmement important. Bien entendu, l'organisation s'adapte au contexte sanitaire avec notamment des jauges de spectateurs réduites pour assurer la distanciation physique. Mais rassurez-vous, la convivialité restera de mise. Avec quelques 20 à 30 événements par semaine, vous ne devriez pas vous ennuyer à Lyon. Pour en savoir plus, une seule adresse, lyon.fr, tout le monde dehors. Chaque mairie d'arrondissement communique également sur leur événement. Bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt.